Questi stacui ascendi de deserto, delicis affluens, inixa super dilectum sum. Qui est celle-ci, qui monte du désert, abondante en délices, appuyée sur son bien-aimé? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Qui est celle-ci qui monte du désert? Chers frères, l'arche d'alliance avait longuement été sous les tentes et les pavillons, quand enfin le grand roi Salomon la plaça dans le riche et magnifique temple qu'il lui avait préparé. La réjouissance fut telle dans la ville de Jérusalem que partout dans les rues ruisselait le sang des sacrifices. L'air était couvert de la fumée des encensements nombreux et fréquents que l'on y faisait. Et toute la ville retentissait du chant des cantiques et des psaumes, ainsi que du son des instruments de musique qui accompagnaient ces cantiques. Grande réjouissance, grande fête. Si la réception de cette ancienne arche fut si solennelle, que devons-nous penser de celle de cette nouvelle arche qu'est la très sainte Vierge Marie, mère du Fils de Dieu, au jour de son Assomption? Joie incompréhensible, fête pleine de merveilles. Quis ista qui ascendi de deserto, qui est celle-ci qui monte du désert? L'arche de l'Ancien Testament ne contenait que la verge d'Aaron, les tables de la loi et un peu de manne. Certes, ces choses étaient trois figures de notre Seigneur, mais aujourd'hui, toute la cour céleste accueille celle qui est la véritable arche d'alliance, celle qui a porté au plus intime d'elle-même, dans son sein, notre Sauveur, et non pas en figure, mais dans la réalité. Nous célébrons aujourd'hui la plus grande fête de la Sainte Vierge, son Assomption en corps et en âme au ciel, fête qui couronne tous les autres privilèges de sa vie, son Immaculée Conception, sa plénitude de grâce, sa maternité divine, sa conception virginale, sa corédemption au pied de la croix, et bien d'autres privilèges. Si l'Assomption a toujours été célébrée dans l'Église, elle n'a été définie comme dogme que récemment. En effet, il a fallu attendre Pie XII, et c'est le 1er novembre 1950, le jour de la Toussaint, qu'il proclamait que Notre-Dame était montée au ciel en corps et en âme. Il publiait à cette occasion la magnifique bulle « Munificentissimus Deus », dans laquelle nous trouvons la formule de la définition. Voici les mots mêmes qu'employa le pape Pie XII. Proclamus, declaramus et definimus, divinitus revelatum dogma esse, immaculatam dei param semper virginem Mariam, ex preto terrestris vite cursu, fuisse corpore et anima a celestem gloriam assumptam. Nous proclamons, déclarons, définissons que c'est un dogme divinement révélé, que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Chaque mot de cette définition porte. Étudions cette définition dans le détail, si vous voulez bien. Elle a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Ce qui est défini ici, défini, est donc imposé à notre foi. Nous n'avons pas le choix. Cela fait partie du dépôt de la foi auquel nous devons adhérer sous peine de perdre la foi. C'est que Notre-Dame a bénéficié d'un privilège tout spécial, par lequel elle est entrée au ciel en corps et en âme. Les autres âmes qui sont entrées au ciel depuis l'Ascension de notre Seigneur, et qui ont donc expié tous leurs péchés, soit ici-bas, soit en passant par le purgatoire, devront attendre la fin des temps, le jugement général, la résurrection des corps, pour que leur corps puisse participer, puisse jouir de la félicité éternelle dont jouit déjà leur âme. Il n'en a pas été ainsi pour Notre-Dame. Notre-Dame jouit de la félicité éternelle depuis son Assomption et dans son âme et dans son corps. Mais continuons dans notre définition. à la fin du cours de sa vie terrestre. Voilà ce qu'a écrit le pape Pie XII. Le pape ici n'a pas voulu trancher la question sur la façon dont la Sainte Vierge a quitté cette terre, et l'indication à la fin du cours de sa vie terrestre est imprécise à souhait dans ce but. Notre-Dame est-elle morte puis ressuscitée, ou bien est-elle montée aux cieux sans mourir auparavant ? Le pape n'en dit rien et c'est exprès. Il n'a pas voulu dirimer la question, il a laissé une certaine liberté. Il affirme cependant, par cette expression, que son corps n'a pas connu la corruption du tombeau, et ceci même dans l'hypothèse où Notre-Dame aurait connu la mort. Car l'expression « à la fin du cours de sa vie terrestre », si elle ne dit rien sur les derniers instants de la Vierge Marie sur cette terre, nous indique toutefois que son corps, s'il est resté inanimé, ne l'a été que très peu de temps et n'a donc pas été corrompu. Mais continuons dans la définition. Elle a été élevée. La définition ne traite pas non plus de la façon dont la Vierge Marie est montée aux cieux. Nous savons cependant, par la théologie, que dès qu'une âme bienheureuse sera réunie à son corps, elle aura un entier pouvoir sur lui, au point qu'elle pourra le mouvoir où bon lui semble. C'est ce qu'on appelle le don d'agilité. C'est ainsi que le corps de la Sainte Vierge est monté aux cieux. Notre Seigneur, au jour de son ascension, y est monté de la même manière, à la différence près qu'il le fit aussi par sa propre puissance divine. Alors qu'en Marie, c'est le don d'agilité qui a opéré cette montée au ciel et qui est un effet de la puissance divine. Voilà ce qui est pour le contenu du dogme. Cependant, dans la bulle, Pie XII, avant d'arriver à cette définition, donne deux raisons fondamentales qui justifient la proclamation de ce dogme. Regardons maintenant ces deux raisons données par Pie XII. Première raison qu'il donne, le lien très intime qui existe entre le dogme de l'Immaculée Conception et celui de l'Assomption. En effet, par sa propre mort, le Christ a vaincu le péché et la mort. Nous participons à cette victoire de notre Seigneur lorsque nous sommes régénérés par les eaux du Saint-Baptême, qui nous ensevelissent dans le tombeau avec notre Seigneur et nous font ressusciter à la grâce avec lui. Le baptême a pour effet d'effacer tout péché et même toute peine due au péché, si bien que quelqu'un qui mourrait juste après son baptême irait directement au ciel, sans passer par le purgatoire. Tout a été effacé, tout péché, toute peine due au péché. L'âme est complètement propre, plus aucune dette. Toutefois, Dieu ne veut pas accorder au juste le plein effet de la victoire sur la mort, si ce n'est à la fin des temps. C'est pourquoi les corps même des justes sont dissous après la mort et ne seront réunis chacun à sa propre âme glorieuse qu'à la fin du monde. Il en est tout autrement pour Notre-Dame, pour la bienheureuse Vierge Marie. Par un privilège spécial, Dieu a voulu l'exempter de tout péché par son immaculée conception. Elle n'a pas contracté le péché originel dans sa conception et n'a jamais commis par la suite le moindre péché, même véniel, ni même la moindre imperfection. Notre-Dame a toujours fait l'acte le plus parfait. De sorte que le péché n'a aucun droit sur elle. C'est pour cela qu'elle n'a pas été sujette à la loi de la corruption du tombeau et n'a pas eu à attendre la fin du monde pour la rédemption de son corps. Le pape ici nous donne la raison prochaine, la raison immédiate, le lien logique le plus court pour prouver l'Assomption. Elle est immaculée conception, donc son corps est monté au ciel. Elle n'a jamais commis de péché. Elle n'a jamais été soumise au péché, donc elle n'a pas eu à en subir les moindres conséquences. C'est pourquoi son corps n'a pas connu la corruption du tombeau. Toutefois, si l'on cherche la raison fondamentale qui se cache derrière tout ça, qui explique d'ailleurs tous les privilèges qu'a reçus Notre-Dame, il nous faut bien sûr remonter à sa maternité divine. C'est parce que la Vierge Marie est la mère de Dieu qu'elle a été exemptée de la contraction du péché originel, qu'elle a reçu une plénitude de grâce, qu'elle est restée vierge tout en devenant mère, qu'elle est corédemptrice, médiatrice de toutes les grâces, et qu'elle est montée au ciel en corps et en âme. Tout vient de cette racine profonde. Elle, simple créature, dépendant totalement de Dieu dans tout son être, comme nous d'ailleurs, est devenue la mère au sens propre. Elle est devenue la mère au sens propre d'une personne divine, le Verbe de Dieu. Ce qui la place dans un état de sainteté tout à fait à part. La sainteté de Notre-Dame est quelque chose d'extraordinaire, auquel personne ne peut prétendre. Ça dépasse tout. C'est un autre niveau. C'est d'une autre nature. C'est pas seulement une différence d'intensité. Elle a plus de grâce que nous n'aurons jamais. C'est une différence de nature. On n'est pas sur la même ligne. Première raison, l'Immaculée Conception. Deuxième raison, essentielle, donnée par le pape pour justifier la proclamation du dogme, le pape explique qu'il ne fait que sanctionner une vérité qui a été certainement révélée et qui est enseignée comme telle par le magistère ordinaire universel de l'Église. Le deuxième argument, c'est le magistère ordinaire universel de l'Église. Pie XII, avant de définir ce dogme, a interrogé les évêques de toute la terre. Or, l'accord presque unanime des évêques catholiques est un des arguments les plus solides en faveur du dogme. Car comme l'affirme le Concile Vatican I, on doit croire de foi divine, on doit croire de foi divine et catholique, les choses contenues dans la parole de Dieu, écrite ou transmise, c'est-à-dire la Sainte Écriture ou la tradition, et que l'Église propose à notre foi par son magistère ordinaire et universel comme des vérités révélées par Dieu. Dogme de foi. Le pape, d'ailleurs, développe amplement cette raison dans la bulle. Il montre par des exemples pris au cours des siècles comment cette foi s'est manifestée dans une lumière plus vive, de jour en jour. Il insiste particulièrement sur la liturgie de l'Assomption, qui remonte à des temps immémoriaux. Et cette liturgie n'engendre pas la foi des catholiques, mais elle en découle. C'est la foi des catholiques, c'est la foi de la hiérarchie catholique qui a composé cette liturgie de l'Assomption. Cette liturgie est la conséquence de la foi des catholiques, de la foi en l'Assomption de Notre-Dame. Penchons-nous maintenant, si vous le voulez bien, sur la principale question que Pie XII n'a pas voulu trancher. Elle a son intérêt pour nous. La question de la mort ou non de la Sainte Vierge avant de monter au ciel. Ici, nous ne pouvons pas apporter une réponse qui s'impose à notre foi. Pie XII n'a pas voulu l'imposer à notre foi. Cependant, les théologiens, dans une très grande proportion, défendent la thèse selon laquelle Notre-Dame serait morte avant d'être glorifiée. Saint François de Sales dit même « C'est un fait très certain que cette sainte dame mourut. » C'est un fait très certain que cette sainte dame mourut. Et si l'Écriture reste muette, parmi les arguments avancés, le plus fort est le suivant. Marie est morte parce que Jésus est mort lui aussi. Et elle est morte pour les mêmes raisons que lui. Alors, voyons les raisons qui ont amené la mort de notre Seigneur. Saint Thomas en donne trois principales. Première raison, pour offrir ses souffrances en expiation pour nos fautes, pour le rachat des péchés, pour le salut des pécheurs. Deuxième raison, pour montrer qu'il était homme comme nous. Il a souffert, le sang a coulé, il est mort. Il est un homme comme nous, deuxième raison. Troisième raison, pour nous donner un exemple de patience et de résignation dans les épreuves. nous sauver, nous racheter du péché. Il est homme, exemple de patience et de résignation. Trois raisons. Nous trouvons ces trois raisons qui valent aussi pour la Sainte Vierge. Notre-Dame devait boire au calice de douleur pour mériter avec son Fils notre salut. Elle est corédemptrice. Premièrement. Deuxièmement, il était aussi convenable qu'il apparût, sans l'ombre d'un doute, qu'elle aussi était une fille d'Adam. Et que son Fils, notre Seigneur, était issu de la même race que nous. Il fallait aussi qu'il y ait une preuve que Notre-Dame avait la nature humaine comme nous. Et troisième point, sa mort était nécessaire pour nous aider à accepter la mort. Comme le dit saint Augustin, pour nous aider à supporter cet implacable ennemi de notre vie, terrible à tous par une mystérieuse répugnance de notre nature. Nous avons tous en horreur la mort, et c'est normal. C'est la dissolution de notre corps, c'est la séparation de l'âme et du corps. C'est la rupture du lien essentiel entre notre âme et notre corps. Le fait que la Sainte Vierge soit morte nous aide à accepter notre propre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Et à l'heure de notre mort. La liturgie aussi fait écho à cette doctrine. Ainsi, l'oraison de la fête de l'Assomption dans le rite dominicain, mais le rite dominicain ne fait que reprendre la liturgie des anciennes basiliques romaines. On trouve cette oraison au 7e, 8e siècle à Rome. Cette oraison dominicaine insiste sur la mort de la Sainte Vierge. Je vous la lis en français. Voici ce que dit l'oraison. Puisse nous apporter un secours salutaire au Seigneur la fête digne d'honneur de ce jour où la Sainte Mère de Dieu a subi la mort temporelle, sans pouvoir être retenue cependant dans les liens de la mort, elle qui a donné naissance à votre Fils incarné. La Mère de Dieu qui a subi la mort temporelle. Et la secrète de la messe, toujours au rite dominicain, parle aussi, insiste sur la mort de la Sainte Vierge. Il serait donc téméraire, de nier cette doctrine soutenue par la grande majorité des théologiens et des docteurs de l'Église et qui s'exprime dans la liturgie. Mais il nous reste encore une question à étudier. Si Notre-Dame est morte, la question qui s'enchaîne derrière, c'est de quoi est-elle morte? De quel genre de mort est-elle passée de vie à trépas? Répondons encore une fois avec saint François de Sales. Il nous dit ceci. Comme pour son Fils, ce fut une mort d'amour. Une mort d'amour. Sur le mont Calvaire, en voyant mourir son Fils, Notre-Dame fut blessée d'une plaie d'amour. Dès lors, cette plaie ne cessa de la faire souffrir. Si nous voulons une petite image de la souffrance que ressentait la Vierge Marie, pensons à saint Philippe Néri. Il eut deux côtes cassées sous la pression du cœur, son cœur qui ressentait l'amour divin, qui battait tellement fort, qui a grossi et qui a cassé deux côtes. Saint Stanislas devait tempérer par de la glace les ardeurs de l'amour de Dieu qu'il ressentait dans son corps. L'amour produisit quelque chose de semblable en Marie. Elle portait tous les jours en son cœur les plaies de son Fils. Comme dit saint François de Sales, pour quelque temps, elle les souffrit sans mourir, mais à la fin, elle en mourut sans souffrir. Je reprends, c'est très fin. Pour quelque temps, elle les souffrit sans mourir, mais à la fin, elle en mourut sans souffrir. C'est très beau. Et c'est très juste. Son cœur était au ciel. Il n'était plus en elle. Comment eût-elle pu demeurer sur la terre? Après avoir soutenu miraculeusement mille et mille assauts d'amour, elle fut emportée et prise par un dernier assaut général et mourut. Notre-Dame est morte dans une extase d'amour. Il n'y a pas plus belle mort. Et c'est la mort la plus digne d'elle, une mort d'amour. Alors, pour nous, retenons deux enseignements de cette fête de l'Assomption. Questa qui ascendit de deserto, qui est celle-ci qui monte du désert, abondante en délices, appuyée sur son bien-aimé. Il nous faut, nous aussi, nous unir à cette joie du ciel. profiter de cette octave de l'Assomption qui va nous mener jusqu'à la fête du Cœur Immaculé de Marie, même si ce sera en mémoire, mais ce sera quand même célébré dimanche prochain, pour honorer notre Mère du Ciel d'une façon toute particulière. Et pour cela, de bien soigner la récitation de notre chapelet. La Sainte Vierge nous a donné le chapelet, bien sûr, elle l'a dit, pour souvenir à tous nos besoins, tant du corps que de l'âme, tant temporel que spirituel. Et nous devons prier le chapelet pour nous avoir recevoir le secours, la grâce dont nous avons besoin. Cependant, la Sainte Vierge a demandé à ce que nous méditions les mystères du rosaire, que nous repassions dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, ces mystères de la vie de Jésus et de Marie. La Sainte Vierge nous a donné le rosaire pour faire de nous des âmes contemplatives, pour que nous contemplions ces mystères. Voilà la raison du rosaire, nous amener à la contemplation des mystères de la foi. Et quand nous serons au ciel, ce sera la seule activité, la plus belle de toutes, celle qui nous occupera totalement, qui nous mettra dans un bonheur indéfinissable, la contemplation de Dieu. Et la Sainte Vierge Marie veut que nous commencions dès ici-bas, par le rosaire, très tout doucement, tout facilement, dit Ave Maria, en méditant dans son cœur un passage de l'Évangile. Rien de plus beau pour nous préparer à cette vie du ciel. Et vous le savez, chers fidèles, les temps deviennent difficiles. Les temps deviennent difficiles. Tout se complique en ce moment. Nous avons besoin de nous accrocher au ciel par notre rosaire. Nous en avons plus besoin que jamais. Première leçon, honorer Notre-Dame, par le chapelet principalement. Deuxième enseignement que nous donne cette fête de l'Assomption, nous préparer à notre propre mort. C'est un fait certain que tous ici, nous allons mourir un jour. C'est certain. Nous avons une certitude absolue que nous allons mourir. La chose incertaine, c'est comment et quand. Mais ce qui est sûr, nous allons mourir. Et nous devons nous préparer à notre mort. La mort ne doit pas venir comme un voleur. Il faut, autant que possible, quand on est catholique, on s'y prépare. Et on s'y prépare tous les jours. Cette mort de la Sainte Vierge Marie, cette mort d'amour, doit nous aider à préparer notre mort pour que notre mort à nous soit aussi une mort d'amour. Autant que cela nous sera donné, notre mort doit ressembler à la mort de la Sainte Vierge. Pour cela, nous devons grandir dans le désir du ciel, dans le désir d'être unis pour toujours à notre Seigneur Jésus-Christ, être unis à lui par l'amour, union de volonté à sa volonté. Désir de plus en plus grand de contempler le mystère insondable de la Trinité des personnes dans l'unité de la nature divine, le grand mystère de la Trinité. Pour toujours, devant nos yeux, dans notre cœur, dans notre âme, contempler ce grand mystère pour lequel nous avons été créés, pour lequel nous avons été créés. Et puis pour cela, pour préparer cette mort, de couper avec le péché, les imperfections, pour aimer Dieu de tout notre être, dans chacune de nos actions. Que Notre-Dame, qui règne au ciel maintenant, en corps et en âme, depuis son Assomption, nous aide à grandir dans cet amour de Dieu, pour que nous soyons de plus en plus tout à lui, en étant de plus en plus tout à elle, et encore une fois, qu'elle fasse de nous des âmes de contemplatifs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.